Bonjour à tous, de nouveau ensemble pour notre émission « Je suis venue vous lire » sur Jet FM. Alors comme nous sommes en décembre, le dernier mois de l'année, celui qui annonce et prépare l'année nouvelle, j'avais envie de vous lire des contes, des histoires, des légendes de Noël, et puis de vous parler aussi de ce fameux passage très attendu de la nouvelle année. Alors tout commence la veille du 6 décembre, lorsque la nuit tombe et que l'eau commence à geler dans les ruisseaux. Dans chaque village de l'Est et du Nord de la France, deux hommes s'habillent pour passer leur nuit dans le froid. Mais ces deux hommes ne se contentent pas de se vêtir, ils se déguisent. Ils se déguisent car le lendemain, c'est la Saint-Nicolas. Et que ce soir, costumés, l'un en évêque, grand et majestueux, et l'autre en père fouettard, barbu, hirsute, et tout habillé de noir. Ils sont accompagnés de leur âne et d'une troupe de masques, et feront ainsi la tournée des maisons du village. Aux enfants sages, Saint-Nicolas distribuera des récompenses, des cadeaux, des friandises. Aux enfants méchants, le père fouettard donnera l'une de ses tiges de bouleau, sacrifiant à une tradition dont les origines se perdent dans la nuit des temps. Cette fête traditionnelle, spontanée, et qui était organisée au niveau de la communauté villageoise, a été petit à petit détrônée, au profit d'un Père Noël standardisé et urbanisé, qui quelquefois défile jugé sur un char fleuri, illuminé, impersonnel, froid et inaccessible. Tellement inaccessible que très souvent on l'oublie sur le rebord des fenêtres ou des balcons, attaché à une corde comme si on l'avait pendu. Curieuse coutume.
Joyeux Noël aux commerçants, les amis des petits-enfants qui proposent joyeusement les nouveaux jeux de chez Nathan. Un soldat qui va à la guerre avec sa troupe de militaires. Un jeu révolutionnaire où faut tuer les gâteurs. Puis c'est si beau les étincelles dans les yeux de la petite demoiselle qui rêve de Barbie Mattel, là en devient même son modèle. Et voilà, les jeux sont vendus, et le monde on le reconnaît plus. Y'a que des poupées plein les rues, et la violence ne choque plus. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, la petite maman qui pense bien faire pour ses enfants en dépensant beaucoup d'argent parce qu'elle veut les voir contents. Parce qu'elle a du cœur, elle pense quand même à ceux qui n'ont pas de vacances. Parce qu'elle a des sous, elle dépense et réduit son cœur au silence. Alors elle entre dans le grand Auchan où t'as du parfum envoûtant, la musique et des pubs en grand. Puis elle obéit au slogan. Alors si c'est ça les valeurs, les cadeaux font le bonheur. Remplis le grand panier en ferraille et nourris ceux que tu affames. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël au monde des grands, celui qui pourrit les enfants. Joyeux Noël à ces titans qu'ont rien compris à l'instant. Joyeux Noël, joyeux parents, les adeptes du dernier moment qui foncent contre leur temps vers la corvée des cadeaux manquants. Celui du petit neveu qui voit jamais ou de la grand-mère du cousin d'André pour qu'ils prennent pour pas se faire chier le livre le plus vendu de l'année. Alors vient l'heure des cadeaux, le sourire se prépare tôt. On dit fallait pas, c'est trop, puis on l'oublie près du gâteau. Joyeux Noël, joyeux Noël, c'est la joyeuse consommation d'une fête de moutons qui aime les huîtres et les marrons parce que c'est la tradition. Période de pub et de billets autour d'un Père Noël truqué. Saint-Nicolas n'a pas marché, il passe moins bien à la télé. Joyeux Noël, l'univers joyeux de Noël. Les lumières de la ville s'éveillent, et profitant qu'on s'émerveille, y en a qui font marcher l'oseille. Mais je suppose que l'on oublie, du moins jusqu'à la fin de la nuit. C'est vrai que c'est moins facile de se dire qu'on nourrit la grande tirelire. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël.
Influencé par les traditions occidentales, Noël est aujourd'hui la fête de la Nativité, où l'on célèbre dans la liturgie chrétienne la naissance de Jésus. Toutefois, l'origine de cette fête semble très controversée. Deux théories s'opposent. La première, Noël viendrait du latin natalis, soit littéralement jour de naissance, et évoquerait donc clairement l'anniversaire de la naissance de Jésus. La deuxième viendrait du gaulois noéo, en breton Neuez, si je prononce bien, ce qui veut dire « nouveau soleil » et qui correspondrait à la renaissance du soleil au moment du solstice d'hiver. Dans le monde entier, les fêtes les plus importantes se situent autour des dates marquant l'évolution de la rotation de la Terre autour du soleil. De tout temps, les rapports de l'homme et de la nature furent rythmés par les saisons. Alors, c'est au moment des solstices, et notamment du solstice d'hiver en Europe, que l'homme exprime ses émotions les plus profondes. L'automne et le début de l'hiver, marqués par la forte décroissance du soleil, font ressurgir des frayeurs étranges, souvent associées à la crainte de la mort. Or, le solstice d'hiver, contrairement à certaines opinions répandues, marque non le déclin, mais la renaissance du soleil, le rallongement des jours qui annoncent le printemps. Ainsi, d'une équinoxe à l'autre, l'homme subit des contrastes très violents, obscurité et lumière, froid et chaleur, crainte de la mort et espoir de la vie. Le soleil aurait donc été l'objet d'un culte fort ancien qui se serait progressivement confondu avec les rites de Noël chez nous, aujourd'hui. Alors, soyons joyeux, le soleil revient, et aussi avec lui les longs et beaux jours.
Christmas time come but once a year. Oh, I'm so happy, my kids are happy too. They take the next 6 months to pay my bills. When I think about it, folks, it gives me chills. But I don't care, 'cause Christmas comes but once a year. Getting ready, people, to have myself a ball. I'm going out partying, gonna dance to every call. I'm gonna think about New Year's Day. I don't care what I have to pay. Let the good times roll, 'cause Christmas comes but once a year. call. I'm gonna think about New Year's Day. I don't care what I have to pay. Let the good times roll, 'cause Christmas comes but once a year.
On fête la nouvelle année. En Asie, par exemple, vit toutes sortes de gens qui célèbrent toutes sortes de fêtes. Chaque communauté, chaque groupe a ses traditions et ses histoires. Mais il existe cependant une fête que tout le monde fête. C'est le nouvel an lunaire, que nous, occidentaux, appelons le nouvel an chinois. Cette fête tombe toujours entre la mi-janvier et la mi-février. Chaque habitant place des papiers rouges, couleur sang, autour de sa porte d'entrée. Sur ces papiers sont écrits, d'une belle écriture, des vœux pour le nouvel an. En plus, à l'aube, les habitants font exploser des pétards. L'histoire que je vais vous lire raconte et explique pourquoi il est important de mettre des papiers rouges à sa porte et de faire exploser de nombreux pétards cette nuit-là. Autrefois, pour un petit village de l'île de Taïwan, en Chine, le jour de l'an était le pire jour de l'année et le plus craint. En effet, des années auparavant, ce jour-là, un pêcheur avait pris par mégarde un dragon des mers dans ses filets. Et le dragon était mort. Son fantôme était revenu, semer la terreur et hanter le village et avait exigé qu'on lui fasse livrer, pour le dévorer, le plus jeune enfant. Les villageois avaient bien essayé de résister, mais le fantôme du dragon avait menacé de ravager toute la région et en désespoir de cause, on se résigna à lui offrir ce qu'il désirait en espérant l'apaiser. Hélas, l'année suivante, il était revenu et sa colère n'avait pas diminué. C'est ainsi que tous les ans, un nouveau-né était sacrifié pour calmer la voracité du fantôme. Cette année-là, comme le voulait la tradition, 4 jours avant le nouvel an lunaire, le prêtre taoïste quittait le temple et marchait jusqu'à la demeure de l'enfant choisi. Comme il se dirigeait vers la crique où se trouvait la maison de la veuve Tang, le village entier comprit où il allait. Et une femme s'écria « Oh non, non, pas elle, la pauvre !» Tout le monde fut horrifié dans le village, car la veuve Tang n'avait qu'un seul enfant, un beau bébé en pleine santé. C'était donc à son tour de sacrifier son fils. Quand le prêtre fut entré chez la veuve, tous les voisins étaient rassemblés autour de la maison. Ils s'attendaient à entendre des hurlements de douleur à l'annonce de la terrible nouvelle. Mais la maison restait silencieuse. Quand le prêtre fut parti, quelques villageois se hasardèrent à entrer. Ils trouvèrent la femme Tang assise près de l'âtre. L'enfant dormait. La veuve était d'un calme impressionnant. Vous avez appris la nouvelle ? Osa lui demander quelqu'un.
Oui.
Et ça ne vous fait pas pleurer ?
Il n'aura pas, mon fils. Je n'ai pas le temps de pleurer.
Pendant 3 jours, elle resta chez elle. Par la fenêtre, elle regardait jouer son fils dans la cour, en souriant malgré elle.
Il ne l'aura pas, se répétait-elle.
Quand l'enfant s'endormait, elle veillait en lui caressant tendrement la tête, tout en priant tous les dieux dont elle connaissait les noms et même ceux dont elle ne savait rien. Un soir, fatiguée de veiller et épuisée, elle s'assoupit quelques instants. Elle se réveilla en sursaut. Elle était plus déterminée que jamais. Elle venait de rêver au dragon Niam, le dragon des origines du monde. C'était le plus grand et le plus terrible des animaux fabuleux. Père de tous les dragons de terre ou de mer, il ne craignait que 2 choses, la couleur rouge et le bruit. « Bien sûr, se dit-elle, ce qui peut effrayer le Niam doit pouvoir effrayer le fantôme. » Mais le rouge était une couleur très rare et difficile à se procurer, et personne dans le village n'en possédait. Ah, il fallait faire vite. On était au dernier jour de l'année et le fantôme viendrait dès ce soir. Alors, la veuve prit un mouchoir et un couteau. Elle se coupa sans hésiter le bout d'un doigt et avec le sang qui s'écoulait, elle teignit le mouchoir, puis le cloua sur sa porte. Pour le bruit, il n'y avait pas plus terrible que le bruit des bambous quand ils brûlent. Elle alla donc couper une bonne brassée de gros bambous qu'elle entassa devant l'entrée. Le soir venu, son fils, couché et endormi, muni d'une lanterne, tremblante mais décidée, elle se cacha au coin de sa maison et attendit le fantôme du dragon avec courage. Il arriva enfin, comme chaque année, furieux et affamé. Debout, il dépassait le toit de la modeste maison. Ses yeux semblaient cracher des étincelles de rage et de sa bouche coulait de la bave tellement l'odeur de l'enfant endormi aiguisait sa faim. Mais quand il vit le mouchoir rouge de sang fixé sur la porte, il s'arrêta net. À ce moment-là, la veuve Tang mit le feu au bambou avec sa lanterne. Ils s'enflammèrent aussitôt en crépitant violemment. Le rouge du mouchoir et le bruit infernal des bambous en flammes désarçonnèrent complètement le fantôme du dragon, qui prit la fuite sans demander son reste. La femme Tang se mit enfin à pleurer, mais c'était des larmes de bonheur. Les gens du village accoururent pleins de soulagement et de joie. On félicita la veuve pour son esprit et son courage, et on fit sonner les gonds et éclater les pétards. La fête dura toute la nuit. Depuis ce jour, chaque année, dans tous les villages, on accroche de grands papiers rouges sang aux portes des maisons, et juste avant l'aube, on allume des quantités de pétards plus bruyants les uns que les autres, afin que jamais, plus jamais, ne revienne le fantôme du dragon des mers.
Yeah. 子活。
我是人穿衣服，他们衣服穿人，老子人就是名牌，他们人是胎神。我的身份有点贵，还不听圣旨，走到街上就抢一千台进口奔驰。
我来自成都，
是成都的恩赐，你听到的不光音乐，怎么还有真实。没有戏看到我表现得就像过生日，弟娃戏把我当偶像，喜欢我的根子，还有哥哥姐姐叔叔阿姨都是粉丝。欣赏不来怎么先把你的就该生日。
出发的那个女生不爱美，身上我满血 bug， 你爱的那个 bad boy 都想与我有瓜葛。多少 hater 他们把我视为眼中钉，当嫉妒从你心里爬到脸中心，做自己就是你，做个最时尚的新人，打扮漂亮再出门，要坚持这种精神。当我出现每一眼都惊艳，讨厌肤浅，给我捡起一片剑，忽近忽远，找个谦虚像新人，要更酷炫，每一天都更鲜艳。
Pour le solstice d'hiver, il existe aussi de nombreux contes et de nombreuses légendes. En voici une, adaptée à un conte de la création, appartenant à la tradition Cherokee. Il y a de cela beaucoup de lunes. Père Soleil créa toutes les plantes, les arbres et tous les animaux. Puis, il bénit les animaux, de sorte que ceux-ci puissent porter des petits. Quant aux plantes, il leur offrit la couleur verte et la possibilité de porter des fruits et des fleurs. Ainsi, la vie se déroula tranquillement pour tous. Mais, un jour, quelque chose de terrible se produisit. De grands vents froids descendirent des montagnes du nord et d'immenses nuages gris s'amoncelèrent au-dessus de la terre, cachant la face lumineuse du Père Soleil. Tous les animaux et toutes les plantes prirent peur et appelèrent le Père. « Ô Père, ne nous quitte pas, Père, Père !» dont suppliaient, « Donne-nous de ta lumière et de ta chaleur !» Mais plus les jours passaient, moins le grand soleil descendait bas dans le ciel, et les longues nuits étaient aussi noires que l'aile d'un corbeau, répandant l'effroi et la tristesse parmi les animaux et les plantes. Ensuite, certaines plantes commencèrent à se dessécher, et le gel couvrit l'herbe des prés d'un manteau scintillant. Le ciel semblait toujours fâché, avec tous ces nuages qui faisaient comme un épais rideau. « Cher Père, nous mourrons sans toi !» gémirent les arbres et les plantes. « Reviens, reviens-nous !» Alors, le vent du nord compatit de leur situation et leur souffla. « Il va revenir, soyez patients !» Les nuages reprirent en chœur. « Il va revenir ! Regardez, il y a une touche d'or au sommet des montagnes ! Son visage a tourné dans le ciel !» Les plantes et les arbres étaient pleins de joie de cette bonne nouvelle. Alors, désireux de saluer leur cher père, ils décidèrent de rester éveillés toute la nuit et de regarder son retour. Certaines plantes mirent en avant leurs magnifiques couleurs brillantes pour accueillir le grand soleil. Mais, après une nuit de veille, elles s'endormirent. Les cornouillers et les aulnes veillèrent pendant deux nuits, mais bientôt leurs branches devinrent lourdes et eux aussi s'endormirent. Les érables et les peupliers chuchotèrent entre eux. « Nous, nous ne céderons pas au sommeil !» Mais bientôt, ils dormaient comme les autres, sous les étoiles étincelantes des froides nuits d'hiver. Au bout de la troisième nuit et du lever du quatrième jour, beaucoup de petites plantes et quelques arbres tombèrent rapidement endormis. Mais qui serait capable de rester éveillé si longtemps ? Lorsque le grand soleil vint, à l'aube du septième jour, le ciel était clair
il baissa les yeux sur les forêts et les prairies au-dessous. Parmi les animaux, seuls, la panthère et la chouette n'avaient pas dormi. Alors, Père Soleil leur fit don de voir dans l'obscurité. Les seules plantes et arbres encore debout pour l'accueillir étaient le pin, le sapin, l'épicéa, le hou et le laurier. Pour votre fidélité et avoir patiemment attendu mon retour, je vous donne le don d'être vert pour toujours, déclara le grand soleil aux plantes et arbres qui l'accueillirent. Toutes les autres plantes perdront leurs feuilles ou dormiront pendant tout l'hiver, mais vous, vous resterez éveillés. Votre couleur sera une promesse de mon retour à tous ceux qui vous verront. Vous rappellerez ainsi aux gens que même dans les temps les plus sombres, tout n'est pas éteint. Et il envoya un flot de lumière sur la terre endormie. Depuis ce jour, les êtres humains se rappellent à chaque saison sombre qu'ils doivent rester éveillés, comme le sapin ou le hou, et qu'ils doivent regarder dans l'obscurité avec les yeux vigilants de la panthère ou de la chouette. Du sapin de Noël, Sylvain Tesson écrivait lors d'un de ses nombreux voyages en regardant les sapins. On aura même réussi à rendre les arbres ridicules. Pauvre sapin, alors qu'il est le roi de la fête. Arbre tout-puissant, mais aussi bienfaiteur. À travers les temps, il reste un symbole de la vie qui ne meurt jamais. Un arbre de l'abondance, de l'âge d'or. Comme tout arbre vénéré, il est censé entretenir des relations privilégiées avec le cosmos. Il met en communication le ciel, la terre et le monde souterrain. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Cette chanson populaire que tout le monde connaît, aussi bien en France qu'en Allemagne et aussi en Autriche, désigne d'emblée ce qui fait du sapin le roi des forêts. Sa verdure, qui ne subit pas le rythme des saisons, semble le rendre immortel. Ce culte de la verdure est très ancien. Déjà les Romains décoraient pendant les Saturnales leur édifice de houx, de lierre et de sapin. En Angleterre, au XVIIIe siècle, les femmes, à cette période de l'année, partaient dans les forêts dont elles revenaient avec des brassées de verdure qu'elles proposaient à chaque maison, moyennant une compensation. Décorer sa maison de sapin n'est autre que la trace d'un vieux rite conjuratoire destiné à apaiser la crainte qu'au fin fond de l'hiver européen, les paysans avaient de ne pas voir revenir le printemps. De même, en pays germanique, on accordait au sapin des pouvoirs magiques. Grâce à lui, on aurait une bonne santé, de bonnes récoltes et surtout, on serait protégé des mauvais esprits. Pour renforcer le pouvoir du sapin, on y mettait des bougies pour que la lumière lui donne encore plus de grandeur et de force. De tradition relativement récente, le sapin de Noël fait donc partie de la longue lignée des arbres symboliques qui jalonnèrent l'histoire de l'homme et qui se chargèrent de sens différents au fur et à mesure de son histoire. Loin derrière d'autres symboles comme l'arbre de justice, l'arbre aux aveux, l'arbre de la liberté, l'arbre de Noël devient à présent l'image rutilante et combien significative de notre société de consommation.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten, children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Yes, may all your Christmases be white.
Si actuellement, lors du repas festif du réveillon de Noël, nous savourons la bûche de Noël, ce gâteau fourré ou glacé, souvent accompagné en décoration de petits lutins bûcherons, eh bien, son nom, sa forme, sont là pour nous rappeler son origine. Or, bien plus que le sapin, la bûche de Noël est riche en signification et en croyances populaires très fortes. La bûche de Noël a ceci de surprenant, c'est qu'elle évoque à la fois une des plus magistrales images du culte solaire et une phase très précise du culte du feu. Quel bois je me chauffe. Cette expression populaire en dit long sur les rapports de l'homme et du végétal. Ainsi, la nuit de Noël, les paysans se chauffaient avec du bois qu'ils avaient particulièrement choisi. Il devait être fruitier, et selon la région, la préférence était accordée à tel ou tel arbre. L'arbre brûlé, sacrifié, pourrait-on dire, est alors honoré. On espère obtenir de nombreux fruits de la même espèce, voire de toutes les espèces l'année suivante. La bûche est ici celle que l'on brûle, que l'on détruit afin de redonner plus de vie. De nombreuses superstitions s'attachaient à ce brûlage. Plus la bûche était grosse, plus la récolte serait bonne. Plus elle émettait de grosses étincelles, plus il y aurait de grosses gerbes de blé ou de mariage dans l'année. Les morceaux de cette bûche magique possédaient encore d'autres pouvoirs. Les tisons ne brûlaient pas la nappe. Les charbons et les cendres que l'on ramassait préservaient hommes et animaux et les guérissaient de nombreuses maladies. Elles rendaient fécondes vaches, poules et abeilles. Dans les greniers, les champs et les vergers, ils faisaient fuir tous les animaux nuisibles. De même, le reste non brûlé de la bûche portait bonheur. C'est pourquoi on le conservait d'une année sur l'autre et on l'amenait dans sa nouvelle demeure si l'on déménageait. Mais ce simple bout de bois acquiert cette nuit-là des pouvoirs encore plus grands, celui notamment de préserver la maison et les champs des orages, du feu du ciel et de la foudre. Les tisons étaient donc gardés précieusement, généralement sous le lit des parents. On les portait dehors et on les rallumait dans la cheminée les soirs de gros orages. La bûche est investie d'un pouvoir sacré, d'une puissance surnaturelle capable de neutraliser d'autres forces aussi violentes. Elle joue un rôle éminemment protecteur sur la famille, qui s'attribue ainsi son pouvoir. Aussi, faut-il respecter ce pouvoir. Il était interdit de s'asseoir sur la bûche. Et si le tabou était enfreint, on risquait alors le feu au cul, des furoncles, la gale, et parfois même des maladies pour le troupeau et la mort dans la maison. Mais il faut savoir que cette bûche pouvait être encore plus puissante. S'il ne fallait pas la laisser s'éteindre en cette nuit, c'est que sa présence attirait aussi de nombreux personnages surnaturels dans la maison. Et enfin, si la bûche durait jusqu'à l'Épiphanie, elle permettait aux rois mages de venir se chauffer sur leur long chemin. Mais on attendait encore d'autres visites ce soir-là. Celle des défunts de la famille, pour qui l'on avait chanté et pour qui l'on préparait chaises et repas près du feu. Et comme cette nuit pleine de miracles est tentée par les mauvais esprits et les sorcières, on a donc jeté du sel et de l'eau de vie sur la bûche pour les en éloigner. C'est aussi à cette fin que le chef de famille restait seul, armé, à garder la bûche pendant que tout le monde dormait. En d'autres temps, la bûche possédait donc un caractère magique, voire sacré et christianisé. Source de fécondité,
rempart contre la maladie, la mort et la sorcellerie, tel était l'essentiel de son pouvoir. On racontait aussi que la bûche de Noël entretenait une relation privilégiée avec le soleil. La bûche de Noël permettait au soleil de briller à nouveau, à la chaleur de ressurgir et à la terre de retrouver la vie.
J'ai dans la tête un vieux sapin, une crèche en dessous, un Saint-Joseph avec une canne en caoutchouc. Était mal faite, puis j'avais fait tête quand je revenais passer trois heures dans un igloo. Qu'on avait fait deux ou trois gars chez Girondou. J'ai devant les yeux, quand je suis heureux, une sorte de jeu. Qu'on avait eu une sorte de grange avec des bœufs. La même année où j'ai passé, et j'ai tant des fêtes avec sa tête une sucre d'hockey. Parce que je voulais me faire passer pour un Garvey. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut Ticu, on se reverra le 7 janvier. J'ai sur le cœur un jour de l'an où mes parents, pensant bien faire, m'avaient habillé en communion. Chez ma grand-mère, c'était mon père qui se déguisait en Père Noël pour faire à croire que les cadeaux, ça venait pas tout de Dupuis frère. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut Ticu, on se reverra le 7 janvier.
Ça me tente des fois d'aller la voir puis d'y parler. Fais des étoiles, peux-tu avoir un autre hockey?
J'ai perdu le mien au sang des sept, j'ai échangé contre des photos où on voit rien. Une fille de l'eau qui se cache les fesses avec les mains. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut Ticu, on se reverra le 7 janvier.
Il n'y a pas que les petits lutins bûcherons. Il existe aussi toutes sortes de personnages magiques qui accompagnent Noël. En Franche-Comté, c'est la tante Harry. C'est une vieille dame, mi-fée, mi-sorcière, que les enfants attendent avec joie et aussi avec appréhension le soir de Noël. Car elle aussi récompense les enfants sages et punit les autres. Voir qu'elle peut amener les enfants désobéissants et les jeter à la rivière. Aïe, aïe, aïe. Connaissez-vous ou avez-vous entendu parler de Babouchka ? Babouchka, c'est une charmante grand-mère, très attendue le soir de Noël par les petits-enfants russes, parce que c'est elle qui apporte les cadeaux. En Allemagne, de même que Tante Harry, c'est Frau Holl, une très vieille femme aux cheveux blancs et aux grandes dents, à la fois fée et sorcière, aimée et redoutée par les petits-enfants allemands. En Scandinavie, c'est Jules Bock. Car Jules, en norvégien et en danois, ça veut dire Noël. Et Jules Bock, c'est là qu'on le rencontre pendant les fêtes. C'est un bouc. Et on raconte que ce bouc n'est autre qu'un prince habitant au plus profond de la forêt et qui, à chaque Noël, se métamorphose en bouc, frappe de son bâton la porte des maisons et apporte dans son sac des jouets uniquement pour les enfants sages. Et bien sûr, il y a les fées de Noël. Dans les Landes, on les appelle les Dames Blanches.
Nos rêves vers un écrin de joie. jadis, caché sous les fleurs de lys, on les voyait flâner en robe blanche.
À Noël, les animaux aussi ont leur légende. Selon l'antique tradition, durant la nuit du solstice d'hiver, les animaux donnaient à nos ancêtres de précieuses indications, rien que par leur position. Les animaux debout, à la minuit, indiquaient l'abondance. Ceux tournés vers la porte d'entrée annonçaient un bel été. Et ceux fouillant leur atelier promettaient de multiples vélages. Ainsi, naquit la légende accordant la parole aux animaux durant la plus longue nuit de l'année.
I was in the kitchen, shameless as the dog was outside. Well, I was in the kitchen, shameless my hell was outside.
L'ensemble des textes sur les traditions et les légendes de Noël et de la nouvelle année sont extraits du livre « Biographie du Père Noël » par Catherine Le Pagnol. Alors nous souhaitions terminer cette émission avec Michel Jordaneuf, C'est mon complice, l'homme de l'ombre, celui qui se cache derrière ses manettes et que vous n'entendez pas, mais qui sans lui l'émission n'existerait pas. C'est lui qui réalise l'ensemble de la programmation musicale et qui est aussi responsable de toute la technique. Alors, je vais lui laisser la parole, je vais même lui laisser le micro, parce que je sais qu'aujourd'hui, il a quelque chose à vous dire.
Bonjour. Aujourd'hui, Corinne veut bien me prêter son micro. Alors j'en profite pour vous présenter tous mes vœux et vous souhaiter un joyeux Noël et d'agréables fêtes de fin d'année. J'aimerais aussi avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux à qui la vie n'a pas fait de cadeau et qui connaissent la souffrance et dans leur chair et dans leur cœur. À vous, mes sœurs de misère, et à vous, mes frères de galère, la seule chose que je puisse vraiment vous souhaiter, c'est que vienne le temps où tous vos jours seront des jours de fête.
Aussi, avant de nous quitter, nous ne pouvions terminer cette émission sans cette grande dame de la chanson française que nous aimons beaucoup, Michel et moi, et qui à sa façon nous souhaite un joyeux Noël. Alors, on ne vous la présente pas parce que vous allez tout de suite la reconnaître.
C'était 22h à peine ce vendredi-là. C'était veille de Noël et pour fêter ça, il s'en allait chez Madeleine près du pont de l'Allemand. Elle aurait eu tant de peine qu'il ne vienne pas fêter Noël. Noël, en smoking de velours vert, en col roulé blanc, et le cœur en bandoulière, marchant à pas lents, à pied il longeait la Seine tout en sifflotant. Puisqu'il allait chez Madeleine, il avait bien le temps. Charmant Noël, charmant Noël, c'était 22h à peine ce vendredi-là. C'était veille de Noël, et pour fêter ça, elle s'en allait chez Jean-Pierre, près du pont de l'Allemagne. Il aurait eu tant de peine qu'elle ne vienne pas fêter Noël, fêter Noël. Bottes noires souveraines et gantées de blanc, elle allait pour dire je t'aime, marchant à pas lents. À pied, elle longeait la Seine tout en chantonnant, puisqu'elle allait chez Jean-Pierre. Charmant Noël, charmant Noël. Or voilà que sur le pont, ils se rencontrèrent. Ces deux-là qui s'en venaient d'un chemin contraire. Lorsqu'il la vit si belle, des bottes au camp, il se sentit infidèle jusqu'au bout des dents. Elle aima son smoking vert, son col roulé blanc, et frissonna dans l'hiver en lui souriant. Bonsoir, je vais chez Jean-Pierre, près du pont de l'Allemagne. Bonsoir, j'allais chez Madeleine, c'est juste à deux pas. Ils allèrent chez Eugène pour y fêter ça, sous le sapin de lumière, quand il l'embrassa. Heureuse, elle se fit légère au creux de son bras. Au petit jour, ils s'aimèrent près d'un feu de bois. Joyeux Noël, joyeux Noël. Mais après une semaine, ce vendredi-là, veille de l'année nouvelle, tout recommença. Il se rendit chez Madeleine, l'air un peu sournois. Elle se rendit chez Jean-Pierre, un peu tard ma foi. Bien sûr, il y eut des selles près du pont de l'Allemagne. Qu'est-ce que ça pouvait leur faire à ces amants-là? Eux qu'avaient eu un Noël comme on n'en fait pas. Mais il est bien doux quand même de rentrer chez soi. Après Noël, joyeux.
Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur www.jet-asso.fr. Bonne écoute sur Jet FM et joyeuses fêtes de fin d'année à vous tous et à la semaine prochaine.